Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Lucille Bess. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Microcité, on est très heureux de vous retrouver pour notre 10e émission après quelques semaines d'absence. On est en direct des studios de Campus Grenoble. Au programme de ce vendredi, la fin de l'omerta sur l'inceste. Dans son livre La Famille Agrandée, Camille Kouchner accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir violé son frère jumeau. Depuis, une avalanche de témoignages de victimes d'inceste a déferlé sur les réseaux sociaux. Lou Momège reçoit l'avocate Hélène Mars qui a œuvré pour l'association SOS Inceste. En fin d'émission, on part à la rencontre de Mamadou Sakho. Il est apprenti boulanger à Fontaine et il était menacé d'expulsion. Mais ses patrons se sont battus pour sa régularisation et figurez-vous que ça a payé. Un heureux dénouement raconté par Colline Mollard. Vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8. On reste ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti. Il est 16h31, le journal avec Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, la campagne de vaccination ralentie par les retards de livraison des groupes Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Ces délais pourraient entraîner d'importantes modifications dans le planning de vaccination de l'Europe. On attend également les annonces du gouvernement concernant de nouvelles restrictions sanitaires. Un troisième confinement fait partie des options étudiées en ce moment par l'exécutif. Un confinement qui ne serait pas sans conséquences, notamment pour les commerçants. Et en fin de journal, on reviendra sur la question du contrôle aux faciès suite à la mise en demeure du gouvernement par plusieurs ONG. Ce sera avec Shannon Marini. L'Agence européenne du médicament s'est prononcée en faveur de la commercialisation du vaccin suédo-britannique AstraZeneca, mais l'Allemagne déconseille encore son utilisation pour les plus de 65 ans. C'est une nouvelle controverse dans cette campagne de vaccination, en plus des retards dans la livraison des doses, des éléments qui ne vont pas faciliter la tâche du gouvernement dans sa campagne vaccinale, grand un bémol.
Si l'Europe vient d'approuver le traitement d'AstraZeneca, l'Allemagne pointe du doigt la possible inefficacité de son traitement sur les personnes âgées, ce qui pourrait quand même modifier notre calendrier vaccinal. En plus, Moderna a annoncé hier qu'elle livrera 25% de doses de moins que prévu à la France en février. Conséquence, les agences régionales de santé d'Île-de-France, des Hauts-de-France et de Bourgogne-Franche-Comté annoncent décaler les prochaines vaccinations.
Un casse-tête pour les vaccins auquel s'ajoute le dilemme d'un nouveau confinement.
Tout à fait, Mathilde. Olivier Véran l'a dit, le couvre-feu n'est pas assez efficace. Emmanuel Macron attend les derniers résultats sur l'effet du couvre-feu avant d'annoncer un probable reconfinement. Le président est coincé entre la circulation rapide des variants et le moral en berne des Français. Plusieurs scénarios sont sur la table, le confinement strict comme en mars dernier. Mais l'entourage d'Emmanuel Macron parle aussi d'un confinement hybride comme en novembre. Selon une source proche du président, il pourrait être plus souple avec les jeunes qui souffrent particulièrement depuis le début de l'épidémie.
Merci Corentin. Ces mesures, même hybrides, auront évidemment un fort impact sur l'économie. Elle pâtit déjà des confinements de mars et octobre dernier. Le chiffre du PIB publié par l'INSEE ce matin le confirme, au moins 8,3% en 2020. C'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si on y ajoute les soldes qui ont débuté il y a tout juste une semaine, ça devient un véritable casse-tête. Alizé Chevoub est allée à la rencontre des commerçants de Grenoble.
Moins 30, moins 50 et même moins 60%. Les vitrines du centre de Grenoble sont pleines de grosses réductions. Les clients ne se pressent pas pour autant. Véronique travaille dans une boutique de prêt-à-porter. Le couvre-feu a déjà eu un gros impact sur ses ventes.
Il y a la petite clientèle qui venait en fin de journée avant d'entrer à la maison, la clientèle du centre-ville, qui ne viennent plus.
Le report des soldes a aussi pénalisé les ventes.
Ce n'était pas forcément une bonne idée. Il y a une perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière qui est certaine.
Et la menace d'un troisième confinement la laisse donc dans l'incertitude.
Si c'est 15 février, on aura encore 15 jours pour liquider notre stock. Si c'est 1er février, ça va être compliqué parce qu'après on va réouvrir sur la saison du printemps. Donc là, on risque d'avoir en effet plus de stock qui va nous rester sur les bras que les autres années.
Pas question pour autant de s'avouer vaincu. Kylian est vendeur chez Sens Unique. Toute la boutique est passée à moins 40% pour liquider les stocks. Et s'il y a un nouveau confinement, ils feront comme au précédent.
10h à 16h, on mettait une petite barrière. Après, les clients y venaient, on les faisait essayer dehors. Et de 16h à 18h, on faisait du click and collect. On espère pas qu'on va être confiné, mais s'il y a, on va essayer de faire ça.
Une solution qui permettrait de sauver certains commerces. Ils ont déjà perdu en moyenne 20% de leur chiffre d'affaires ce mois-ci.
Un reportage d'Alizé Chevoub.
Un lien a été confirmé entre les deux meurtres perpétrés hier dans la Drôme et dans l'Ardèche et celui du début de semaine à Colmar.
La même voiture rouge a été vue dans le Haut-Rhin, le Drôme et l'Ardèche après les meurtres de deux DRH et celle d'une conseillère Pôle emploi. Des traces d'ADN correspondant ont également été prélevées. Le suspect, un ingénieur au chômage de 45 ans, réside à Nancy. Il est actuellement interrogé à Valence sur les motivations de ses actes. 6 ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont mis en demeure l'État en tout début de semaine. Elles demandent la fin des contrôles aux faciès. Le gouvernement a désormais 4 mois pour réagir, sinon ces associations saisiront la justice. C'est une action inédite. Les jeunes hommes racisés ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés que les autres, selon le dernier rapport du Défenseur des droits. À Échirolles, les contrôles de police sont le quotidien de certains jeunes.
Ils sont tous les deux en lycée pro à Thomas Edison, mais n'ont pas les mêmes rapports avec la police.
Ça va, il n'a pas l'apparence, on va dire.
L'un à la peau blanche dit ne jamais se faire contrôler. Son ami est d'origine maghrébine. Pour lui, c'est devenu une habitude.
Plus souvent, c'est dans mon quartier. Ils viennent, ils insultent, ils te contrôlent. La tête d'arabe, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis descendu jouer au foot avec mes collègues. Ils sont arrivés, ils ont contrôlé tout le monde. Bon, c'était la dernière fois ça, que je me suis fait contrôler, 3 jours. C'est basique pour eux, en fait.
Des insultes racistes, mais aussi des coups, selon certains. À force de se faire contrôler, ils connaissent même les noms des policiers. Pour eux, le problème, c'est surtout les BST, les brigades spécialisées de terrain, une police de proximité déployée sur les quartiers sensibles.
Ils nous ont contrôlés contre le mur, direct. Et alors qu'ils n'ont fait rien, on est posé, c'est un squat.
Tous les jours, je sors de chez moi, je croise la police, et ils vont vouloir me contrôler.
Des gens comme vous, par exemple, ils viennent, ils les contrôlent pas. Oui, ils viennent.
Pour résoudre le problème, Emmanuel Macron a annoncé en décembre la création d'une plateforme de signalement, une nouvelle qui a provoqué la colère des syndicats de police.
Un reportage de Shannon Marini.
Et il ne sera bientôt plus possible d'acheter un chat, un chien ou un poisson rouge sur Internet.
La loi sur la maltraitance animale est étudiée depuis mercredi à l'Assemblée nationale. 3 jours, plus de 450 amendements, c'est la première fois que le gouvernement accorde autant d'importance à la cause animale. Mais pour Gérard Lassias, président de la SPA du Dauphiné, écrire des lois, c'est pas tout à fait suffisant.
En France, je pense qu'il y a déjà beaucoup de lois, sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Il y a des personnes qui sont condamnées à une interdiction de détention d'animaux dans les tribunaux. Ça arrive fréquemment, d'ailleurs c'est bien. Sauf que derrière, il n'y a pas de fichier national pour ces personnes-là. Si quelqu'un arrive chez nous et qu'il a une interdiction de détention d'animaux et qu'on ne le connaît pas, ben on ne le saura pas, on ne peut pas le savoir. Donc il va repartir avec un animal à la limite.
Au Portugal, le Parlement vient d'adopter une nouvelle législation sur la mort médicalement assistée. Cette loi prévoit que les personnes majeures dans une situation de souffrance extrême pourront avoir recours à l'euthanasie. Le Portugal devient donc le 4e pays d'Europe à la légaliser. La Chine ne reconnaîtra plus les BNO, ces passeports spéciaux britanniques détenus par les ressortissants de Hong Kong. Il y a quelques jours, Londres a étendu les droits de résidence des Hongkongais en Grande-Bretagne. Pékin s'est immédiatement positionné contre. Pour elle, Hong Kong ne devrait pas se transformer en réservoir de citoyens britanniques de seconde zone. Le festival d'Angoulême dévoile aujourd'hui son palmarès à huis clos. Seule une poignée de spectateurs pourront assister à la remise des prix. Une version grand public est prévue au mois de juin, mais pourrait être boycottée par plus de 700 auteurs. Ils réclament une meilleure reconnaissance financière de leur travail. Un miracle, c'est le terme qu'a employé Jean Le Cam pour qualifier son arrivée du Vendée Globe. En effet, la course n'a pas été de tout repos pour le Breton de 61 ans qui revient avec une côte cassée depuis plus d'un mois. Après 82 jours en mer, il remporte la 4e place de la compétition.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Merci Mathilde pour ce journal. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité en direct jusqu'à 17h.
Dans un instant, on évoquera la fin du tabou autour de l'inceste avec Lou Momej et son invité. Vous écoutez Microcité, il est 16h39.
Thank you.
On vient d'écouter Forever and More de Jaguarson.
Le dossier de la semaine.
Le livre a provoqué une onde de choc à sa parution au début du mois. La Familia Grande de Camille Kouchner raconte l'inceste subi par son frère jumeau. Pendant plusieurs années, il est victime de viol de son beau-père, le célèbre politologue Olivier Duhamel. Tout au long du récit, Camille Kouchner décortique la mécanique du silence autour de ce crime. Depuis, les témoignages d'autres victimes pleuvent sur les réseaux sociaux sous le hashtag #MeTooInceste Loumomège.
En France, on estime qu'une personne sur dix et ou a été victime d'inceste. Aujourd'hui, ce n'est pas encore reconnu comme un crime ou un délit, à l'image du viol ou de l'agression sexuelle. C'est simplement une circonstance aggravante. Bonjour Hélène Mars.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui avocate honoraire, diplômée en victimologie et spécialisée en droit des personnes. Vous avez œuvré pendant plusieurs années comme avocate de l'association SOS Inceste. Alors, l'inceste, on en parle dans les médias depuis près de 30 ans. En 1986, Eva Thomas, elle témoignait déjà... c'était déjà la première victime à témoigner à visage découvert. Et avec la vague de témoignages actuels, qu'est-ce qui change par rapport aux années 80? Est-ce qu'on est en train de mettre fin au tabou de l'inceste?
Alors, il y a de grands changements qui se sont faits déjà par paliers. En ce sens qu'en 2016, a été introduit dans la loi le fait que les actes sont qualifiés d'incestueux s'ils sont commis dans la famille. Mais c'est uniquement une surqualification. Il n'y a pas un interdit de l'inceste. Et puis ce qui a changé, c'est le délai pendant lequel les victimes peuvent agir.
Et en termes de considération dans la société de l'inceste, qu'est-ce qui change au niveau des mentalités?
Et précisément, le livre de Camille Kouchner est remarquable de ce point de vue, parce qu'il a absolument fait exploser le silence et permis à de nombreuses victimes de se manifester, de dire ce qu'elles avaient vécu, et effectivement, je l'espère, de les encourager à porter plainte lorsqu'elles le peuvent et lorsqu'elles sont encore dans les délais.
J'aimerais maintenant qu'on écoute le témoignage de Christelle, 54 ans. Elle a été abusée par son père de 5 à 16 ans. Et c'est en entendant parler de l'association SOS Inceste que sa parole s'est libérée plus de 40 ans après cette relation incestueuse.
Moi, j'ai pris du temps parce qu'il y a eu toute une période de déni où, quelque part, on oublie. On essaye d'avoir une vie normale, mais le relationnel, il est abîmé, quoi. Enfin, il y a ce traumatisme qui reste. On n'a pas confiance. Il y a la peur de la soumission. On peut avoir des comportements complètement en décalé et incompréhensible par les autres. Tout est impacté. J'ai quand même été mariée, j'ai eu un enfant. Mais bon, mon mariage, il n'a pas duré très longtemps. Moi, personnellement, voilà, au bout d'un certain temps, j'ai toujours l'impression d'être un objet. Alors oui, je peux dire que ça va mieux. J'ai une vie professionnelle, j'ai des amis, j'ai des activités. Donc j'ai une vie quand même, voilà, on peut dire normale. Mais il y a toujours des hauts et des bas.
Alors Christelle a mis des dizaines d'années avant de pouvoir libérer sa parole. Quand on voit l'impact que l'inceste peut avoir sur une vie, pourquoi on met autant de temps à en parler ?
En réalité, au départ, l'enfant ne sait pas que c'est interdit. L'enfant n'a absolument pas conscience qu'on est en train de faire quelque chose d'anormal. C'est son père qui lui enseigne, c'est un oncle qui lui dit « Tais-toi, c'est notre secret, et d'ailleurs je t'aime, je suis très très amoureux de toi, et vraiment, il faut garder secret, ça ferait de la peine à la famille. » Donc on est dans ce contexte-là. Et ensuite vient la honte. La honte parce que toute la société et la loi elle-même laissent sous-entendre que finalement, ça n'arrive pas par hasard et l'enfant aurait sa part de responsabilité, ce qui est complètement aberrant. Donc ce temps-là est nécessaire. Il y a aussi le phénomène de l'amnésie. Il y a certaines personnes qui occultent et oublient totalement les faits dont elles ont été victimes. Il y a un livre remarquable, Inceste, qui a été écrit sur le sujet. Et tout d'un coup, cette femme qui a un petit enfant et qui voit que ce petit enfant va s'asseoir sur les genoux du grand-père, dit « mais c'est pas possible, elle peut pas faire ça ». Et le souvenir revient avec une violence inouïe. Donc, toutes ces raisons, et beaucoup d'autres, mais en tout cas les principales, font que, pour les victimes, dénoncer les faits est très difficile. Il y a aussi la peur de faire éclater la famille, et malheureusement, l'actualité nous montre que c'est totalement une crainte fondée.
Selon une étude de 2015 de l'association Face à l'inceste, 90% des victimes ne portent pas plainte. Hélène Mars, vous qui avez accompagné des victimes d'inceste, pourquoi le témoignage est aussi compliqué dans ces cas-là ? Vous en avez déjà un peu parlé, mais...
Le témoignage est compliqué d'abord parce qu'il faut trouver des alliés. Dans n'importe quelle affaire, que ce soit pour le viol, que ce soit pour les agressions sexuelles et a fortiori quand ça s'est passé dans l'enfance, si vous n'êtes pas soutenu, la justice ne sera pas suffisante. Et souvent, au lieu d'un soutien, ce sont des critiques. Je peux prendre l'exemple de la mère de Camille Kouchner et de son frère jumeau, puisqu'il est sur la place publique. Effectivement, une mère a tendance à ne pas soutenir, ne pas croire la situation qui est dénoncée par son enfant. Ça rend la plainte très difficile.
Et justement, vous parliez de l'affaire Olivier Duhamel. Il y a plusieurs questions qui sont, suite à la publication de cet ouvrage, au cœur du débat public. Il y a l'âge du consentement, le délai de prescription, la reconnaissance de l'inceste dans le code pénal. On va écouter un éclairage de Christelle Delfos sur... l'état de la loi française en ce moment à ce sujet.
Oui, déjà, il faut savoir qu'il n'existe pas d'âge de consentement légal. On considère seulement qu'à partir de 15 ans, un adolescent peut avoir des relations sexuelles avec un majeur. Et en dessous de cet âge, tout acte est considéré comme une atteinte sexuelle, un délit. Mais la semaine dernière, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi pour créer un âge de consentement sexuel. Et cette loi, elle pourrait interdire tout acte sexuel entre une personne majeure et un enfant de moins de 13 ans. Ensuite, on a aussi, concernant le délai de prescription, et c'est plus simple, en 2018, il a été porté en 30 ans après à 30 ans après la majorité, ce qui signifie qu'une victime d'inceste a jusqu'à ses 48 ans pour porter plainte. Mais la nouvelle loi n'est pas rétroactive, donc le délai de prescription d'un viol commis en 1995, par exemple, reste à 10 ans, donc la loi de l'époque. Et enfin, on a pu l'évoquer, l'inceste n'est pas inscrit en tant que tel dans le code pénal. Actuellement, il est simplement sanctionné en tant que circonstance aggravante de violence sexuelle.
On va revenir un peu sur ce qui a été dit. Donc, d'abord, sur la majorité sexuelle, pourquoi inscrire un âge de consentement dans la loi et surtout, selon vous, quel âge on pourrait fixer ?
Alors, précisément, il faut écarter le mot de consentement. Le mot de consentement n'a pas sa place. C'est totalement aberrant de considérer qu'un enfant peut consentir. Donc ce qui a été fait au Sénat et ce que nous revendiquons depuis 2004, c'est qu'il y ait une infraction spécifique, violence sexuelle sur mineur. Mineur de moins de 15 ans, s'il n'y a pas de lien de parenté. Mineur de moins de 18 ans, si c'est une personne ayant autorité ou, a fortiori, un parent ou dans le cas d'inceste. Parce que analyser le consentement n'est possible que pour des adultes. On ne peut pas retenir cette notion pour un enfant.
Vous parlez d'infraction autonome. Ça changerait quoi, en fait, de faire de l'inceste une infraction à part entière ?
Faire de l'inceste une infraction à part entière, c'est prendre la mesure de ce qu'un enfant est sous la coupe de son parent, d'une part, et d'autre part, a les plus grandes difficultés à dénoncer les faits parce qu'il y a un mélange d'amour et de haine à l'égard de ce parent. Et je me reporte au livre de Camille Kouchner parce qu'il est aussi remarquable de ce point de vue-là. Elle ne cesse de dire « J'ai une reconnaissance à l'égard d'Olivier Duhamel, il m'a appris beaucoup de choses. » Et pourtant, elle sait ce qu'il a fait à son frère.
Sur la question de la prescription, Hélène Mars, vous pensez que l'imprescriptibilité n'est pas nécessaire. Pourquoi ?
Elle est dangereuse. Elle est dangereuse de deux points de vue. D'une part, parce que on laisse croire à des victimes qu'on va pouvoir agir indéfiniment, ce qui est totalement faux. Pour avoir eu des affaires dont les faits étaient anciens, on est confronté à des difficultés majeures et c'est très grave de donner un espoir et derrière de ne pas pouvoir y répondre. La deuxième raison, c'est que toutes les victimes vous le diront, la prescription, elles l'ont presque dans la tête, c'est-à-dire c'est une espèce de date butoir. Si c'est pour vivre toute sa vie avec « j'y vais pas », ce n'est pas une bonne solution. Et en tant qu'avocat, nous avons eu souvent des personnes qui venaient, enfin moi ça m'a frappé quand on était encore à 28 ans, un homme qui est venu, il allait avoir 28 ans 8 jours après. Il ne connaissait pas la loi, mais il y a comme quelque chose en lui qui savait que voilà, c'était le moment de bouger.
Mais pour les personnes qui ont une amnésie traumatique, par exemple, et pour, qui prennent conscience de ce qu'elles ont vécu des dizaines d'années plus tard, une fois que tout est prescrit.
Tous les exemples qu'on a aujourd'hui dans les témoignages nous montrent que c'est autour de 40 ans, quand les femmes ont fondé leur foyer, ont un travail, sont un petit peu installées dans la vie, qu'elles dénoncent les choses. Donc 48 ans, ça doit être une solution. Après, l'association SOS Inceste a développé plusieurs démarches pour trouver d'autres possibilités. Le gouvernement, en 2018, a mis sur pied une plateforme pour signaler les faits d'agression sexuelle, de violence sexuelle et sexiste. Et il y a un chat avec ce site du gouvernement. C'est important de le dire et de le répéter, parce que lorsqu'il y a signalement, le procureur peut faire une enquête et qui sait trouver le moyen de lever la prescription d'une façon ou d'une autre.
Dans le cas de Victor Kouchner, par exemple, où l'affaire est prescrite, est-ce qu'il y a un intérêt à porter plainte ?
C'est évident. Il y a un intérêt parce que l'affaire avait déjà été dénoncée en 2011. On ne sait pas aujourd'hui si en 2011... l'affaire était prescrite ou non, mais si jamais elle n'était pas prescrite à ce moment-là, le fait qu'il y ait une enquête peut être interruptif du délai de prescription. Et Laurence Rossignol a proposé un amendement en disant que si quelqu'un commettait d'autres actes sur d'autres victimes, on pourrait à ce moment-là lever la prescription pour les précédentes victimes. Ça pourrait être une ouverture.
Autre chose, selon la loi, quelqu'un qui a connaissance d'un inceste est obligé de le dénoncer, mais seulement tant que les faits sont en cours. Ce délai, là, d'obligation de dénonciation, il est suffisant actuellement ?
Il faut qu'il change. Il faut qu'il change clairement parce que la dénonciation suit la révélation. Et comme la révélation est tardive, il faudrait qu'on puisse adapter, peut-être pas être dans un délai de 30 ans, bien sûr, mais rester sur un délai de 10 ans à compter de la révélation des faits.
Merci Lou, merci Hélène Mars. Vous êtes avocate, vous militez aux côtés d'Eva Thomas, qui est la première victime d'inceste à avoir osé en parler publiquement. Vous militez notamment, vous l'avez dit, pour faire de l'inceste une infraction à part entière. Et vous avez également défendu des victimes d'inceste aux côtés de l'association SOS Inceste. C'est la fin de ce dossier. Il est 16h55 sur Radio Campus.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Mamadou Sakho, l'apprenti boulanger menacé d'expulsion, va être régularisé après un combat avec la préfecture qui dure depuis septembre. C'est le soulagement. Le jeune Malien poursuit son apprentissage. Colline Mollard l'a rencontré dans sa boulangerie à Fontaine, aux côtés de ses patrons qui se sont battus pour qu'il obtienne son titre de séjour.
À tel point qu'il se tombe dans les bras comme une famille qui se retrouve.
Je dis pas que c'est comme mon fils parce que je suis trop jeune pour tout ça, mais ouais. Comme un frère.
Najla Boukorte, la gérante, forme Mamadou depuis un an et demi.
Quelqu'un comme ça, on peut pas le laisser partir, c'est pas possible. Il est parfait sur tous les points, il est indispensable. En un an et demi, il nous est devenu indispensable en fait. Parce qu'il est assidu, parce qu'il est poli, parce qu'il est motivé, parce qu'il est agréable, parce qu'il fait son travail avec une précision qu'un ouvrier qui a 10 ans d'ancienneté ne le fait pas. C'est plus qu'un ouvrier, hein. Non, on a vraiment créé un lien affectif aussi avec Mamadou, bien sûr.
Ouais, je suis très très content.
Ouais, moi aussi, je suis trop content.
C'est comme si on est une famille, puisque je pense que le lien entre moi et eux, ça dépasse entre l'employé et le patron.
Mamadou a trouvé refuge en Isère il y a 3 ans. Quand il est devenu majeur en septembre dernier, on lui a demandé de quitter le territoire. Il a été forcé d'arrêter son apprentissage. L'attente a été terrible pour lui.
Imagine, je fais presque 1 an et demi en apprentissage pour arrêter ma formation comme ça. Et puis de quitter en France, ça fait presque 3 ans et demi que je suis là. C'est très très dur ça aussi. C'est un métier que j'aime depuis tout petit aussi. Et puis j'ai eu le sens aussi de trouver un bon patron aussi qui m'a soutenu.
Et si ses patrons l'ont soutenu, c'est parce que Mamadou est apprécié de tous au sein de la boulangerie. Une pétition en faveur de sa régularisation a même recueilli 30 000 signatures.
C'est une bonne nouvelle, hein.
Catherine est vendeuse à la boulangerie.
De savoir qu'il va rester là, je suis très contente moi. C'est vrai que c'est rare de tous les apprentis qu'on a eus d'avoir quelqu'un comme lui quoi en fait. Puis on sent qu'il est dans son élément, c'est vraiment sa passion la boulangerie. Ouais ouais.
Le jeune Malien a enfin reçu mercredi un titre de séjour d'un an renouvelable, mais le combat a été très long pour Najla et son mari.
Je suis passée par des mails au préfet, aux députés qui ont été refusés. La seule solution ça a été de médiatiser pour pouvoir être entendue et démontrer que Mamadou méritait sa place ici quoi. Honnêtement, c'était compliqué. Hein. C'est le 4e migrant qu'on a qui nous arrête son apprentissage comme ça, en plein milieu. C'est triste de devoir en arriver là pour arriver à travailler dignement.
Car Mamadou n'est pas un cas isolé. À l'Institut des métiers de Grenoble, où il suit sa formation, plus de 10% des apprentis sont des jeunes migrants. Ils sont nombreux dans le secteur du bâtiment, de la restauration, des métiers qui attirent de moins en moins les élèves français.
Il est 16h58, on est en compagnie de Mathilde Cariou pour le rappel des titres.
L'Agence européenne du médicament s'est prononcée en faveur de la commercialisation du vaccin suédo-britannique AstraZeneca. L'Allemagne a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne le proposerait pas aux plus de 65 ans. En effet, son efficacité, déjà 20% inférieure à celle de Pfizer, serait encore moindre sur les seniors. Un lien a été confirmé entre les meurtres de 2 DRH et une conseillère Pôle emploi dans le Haut-Rhin, la Drôme et l'Ardèche. Le suspect, un ingénieur au chômage de 45 ans, est actuellement auditionné par le parquet de Valence. Le Portugal devient le 4e pays d'Europe à légaliser l'euthanasie. La loi qui vient d'être adoptée par le Parlement prévoit qu'une personne majeure dans une situation de souffrance extrême pourra avoir recours au suicide assisté. Et puis dans une demi-heure, match très important pour l'équipe de France de handball qui affrontera la Suède en demi-finale du championnat du monde.
Merci Mathilde. Avant de se quitter, un point météo. Les températures sont douces pour la saison, mais si vous comptez profiter un peu du grand air ce week-end, pensez au Kawé. Samedi, il pleuvra toute la journée, des précipitations qui devraient se calmer dimanche. Il faudra bien en profiter car la pluie reprendra de plus belle dès lundi. Il est presque 17h, Microcité c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On remercie Sinamir qui nous a épaulés dans sa préparation, ainsi que Louis Oscovin à la régie. Pour écouter ou réécouter notre émission, rendez-vous sur le site de Campus Grenoble. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien.